Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio follement normale. Ici, les idées fusent, les micros s'agitent et les échanges ne tiennent jamais en place. En direct jusqu'à 16h30 depuis le studio de Pavillon Nomade, en présence de nos participants du jour. D'ailleurs, on a vraiment des nouvelles personnes qui sont venues. On a des habitués, on a Marc, on a Luca, on a Suzanne, on a Marine, on a Tristan, on a Diana, on a Lola, on a Émilie, on a Eliane et à la technique, on a Pascal Vigolo. On va échanger sur différents thèmes, notamment sur celui que je vous propose à la rencontre de nos sens, sans oublier de passer par notre chronique, la ménagerie d'Eliane. Mais commençons avec notre premier thème. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Bienvenue.
Bienvenue à vous.
Suzanne, vous nous avez proposé un thème. On a mis un peu de temps pour essayer de mettre des mots dessus, mais finalement, de parler autour de la résilience après des événements tragiques, traumas, des événements de vie qui font comment on arrive à peut-être à s'en sortir. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ayez eu envie de nous proposer ce thème ?
J'ai envie de vous proposer le thème donc des traumatismes et comment en sortir. Bon, c'est tout un programme, mais on arrive à sortir de tout. De tout. Absolument tout. Je peux vous dire, par expérience, d'un demi-siècle de psychiatrie. Hein. C'est vous dire. Donc, en fait, d'un demi-siècle, au départ, de traumatismes. De gros traumatismes, d'où une amnésie qui en a résulté. Et cette amnésie commence à se réaliser
Comment est-ce que l'amnésie peut se réaliser, vous dites ? Vous, en tout cas, vous avez eu l'impression que les traumatismes vous ont créé une amnésie, c'est ce qui peut arriver. Mais surtout, ce qui est important, c'est savoir comment est-ce que vous avez pu sortir de ça. Est-ce que vous pouvez raconter peut-être un exemple ?
Oui, ben un exemple, ça peut être, et c'est en fait, comment dire ? Un exemple, c'est un des abus.
Moi, je vais vous donner un exemple parce que je vous connais quand même depuis le temps à la radio. Je sais que vous aimez beaucoup chanter et écrire. Et ça, c'est un grand exemple de résilience, Suzanne, parce que je pense que ça vous a beaucoup aidé d'écrire des textes, de les chanter. Quand il y avait ces moments durs, là, vous parliez d'abus, mais il y a eu tous ces moments où vous avez réussi à écrire ou chanter et qui vous ont permis de ramener un peu de joie et puis de sortir de cette ambiance-là. Est-ce que c'est vrai ?
Tout à fait. La chanson, l'écriture, mettre sur papier tout ce qui vous passe sur la tête. Voilà, ça c'est extraordinaire.
Mais merci Suzanne d'avoir déjà lancé ce débat. Mais peut-être pour nos auditeurs qui nous écoutent et peut-être aussi pour les personnes qui sont autour de la table, c'est quoi la résilience finalement ? Parce qu'on utilise ce thème résilience, mais qu'est-ce que c'est la résilience ? Alors je ne sais pas si quelqu'un connaît ce thème ou... Alors Tristan ? Le temps que Luca cherche, Tristan, on vous donne la parole et après on donnera la parole à Diana. Mais déjà, la résilience, pour vous, c'est quoi ?
Eh bien, la résilience est avant tout le fait de ne pas laisser les événements passés façonner ce que nous sommes. Cela peut prendre la forme d'un hobby, de rencontre, de tout autre acte qui nous permet... En fait, les traumatismes sont comme un problème qui nous suit absolument partout. On dort, on a fait des cauchemars, on a des sensations avec certains stimuli, que ce soit des bruits d'oiseaux qui pourraient rappeler des bruits d'explosion ou je ne sais quoi. Mais justement, la résilience en soi, c'est de vivre malgré tout ça. Et de trouver les différentes méthodes pour faire en sorte que la vie puisse être vécue malgré cet handicap qui nous suit.
Vous avez fait une très belle définition de ce qu'est la résilience. Alors, je ne sais pas si Luca, il est allé chercher sur Internet, voir un petit peu ce que peut-être la science le décrit.
Alors, la résilience indique un changement de regard, un changement de regard, personne confrontée à l'adversité développe une nouvelle interprétation de ce qu'il vit ou a vécu. Nouvelles idées, stratégies d'action, Stéphane Vernis-Dahel, sociologue et responsable de l'unité de recherche de développement du BICE. Ainsi, tout en reconnaissant les problèmes de la personne, résilience cherche au-delà de simples préparations les ressources positives, même modestes, qui l'aideront à reconstruire sa vie. Donc là, il s'agit de reconstruire sa vie, c'est-à-dire de prendre ce qu'on a laissé de côté et puis de le changer, d'essayer de faire autrement.
Ouais, comme disait Tristan, finalement, ce n'est pas parce qu'on a eu des événements difficiles dans le passé qui doivent obligatoirement dicter ce qu'on sera plus tard. Marc, vous avez envie de rebondir. Bonjour Marc.
Bonjour, je voulais juste dire, évidemment, c'est facile pour quelqu'un qui n'en a pas vraiment vécu, ce qui est mon cas, que finalement les traumatismes, les événements qui ont déclenché les traumatismes, ils sont là, on peut rien y changer. Ce qu'on peut changer, c'est le regard qu'on porte sur eux, la manière dont on les accueille. Et j'aime beaucoup cette citation, et je trouve que beaucoup de gens devraient la méditer. Attention, je ne parle pas de gens qui ont subi des abus ou des choses abominables qu'on ne peut même pas imaginer quand on ne les a pas subis, mais il est bon d'avoir suffisamment de courage pour refuser les choses qui doivent être refusées, suffisamment de lucidité pour accepter, ou de résilience, pour accepter ce qui doit être accepté, qu'on ne peut pas changer. Et puis surtout, et le plus important des trois, c'est d'avoir la clairvoyance de distinguer ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Parce que si on s'obstine contre des moulins à vent à essayer de combattre quelque chose qui de toute façon est là et qui de toute façon fera toujours mal, c'est une perte de temps, et l'énergie qu'on y met, on pourrait l'utiliser pour d'autres choses.
Mais vous avez raison Marc, hein, jusqu'à preuve du contraire, je dis souvent la machine à remonter dans le temps, elle n'existe pas, donc ce qui s'est passé c'est passé, mais par contre on peut agir sur ce qui va devenir. Alors bien sûr qu'on ne peut pas oublier et qu'on ne peut pas mettre tout de côté, parce que c'est ce qui nous permet de se construire aussi le parcours de vie qu'on a eu, mais c'est vrai qu'on doit aussi penser à l'après, vous avez tout à fait raison. Diana, on vous écoute.
Malgré les traumas, je sais que ça reste à vie, mais il faut qu'on se donne de la force, il faut qu'on reste positif. Ça reste toujours là, mais il faut que des fois, si ça reste toujours là, on peut demander de l'aide, ou des fois, il faut se donner de la force, et des fois, on y arrive. Des fois, on est dans le déni, on croit qu'on n'y arrive pas, mais ça, c'est juste le cerveau qui pense.
Ouais. Et vous avez raison, hein. Là, vous venez de citer deux éléments très importants, je pense, quand on parle de rétablissement. Hein. La résilience, on a mis des mots dessus. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à connaître un petit peu plus, c'est Boris Cyrulnik, hein, qui a beaucoup écrit, notamment sur ce concept-là. Mais l'espoir, c'est sans espoir, c'est difficile de se projeter vers l'avenir. Et surtout, que quand on a pas la possibilité de pouvoir le faire, de demander du soutien, c'est important. Demander de l'aide et avoir de l'espoir. Diana.
Et y a des gens qui ont des traumas et ils sont croyants. Et du coup, ils croient que ces traumas, ils vont partir.
Ouais. Lola.
Justement, pour revenir sur la croyance et tout, je pense que quand on a foi en Dieu, par exemple, enfin c'est propre à chacun, mais quand on a la foi, ça aide à être résilient. Même si on peut avoir une épreuve hyper compliquée dans sa vie, peut-être au début, on ne va pas réussir à avoir le positif dans tout ça. Et de penser peut-être que c'est quelque chose par quoi on doit passer, c'est quelque chose qui peut nous élever pour la suite et tout. Même si c'est compliqué sur le moment et tout, la résilience aussi, c'est de se dire que ça va nous servir et qu'après, ça ira mieux. Et je pense que la foi, ça peut beaucoup aider avec ça.
Vous avez raison. Hein, finalement, ce qu'on appelle le sens à sa vie, hein, d'un point de vue spirituel, ce qui nous permet de faire du bien, c'est un des piliers aussi du processus de rétablissement. Marine, excusez-moi, Suzanne, hein, vous vouliez prendre le micro.
Je vais vous dire ce qui m'a permis à moi d'arriver à mettre de côté, à ne plus avoir cette charrue à traîner, inconsciente, en fait. Et ce qui m'a permis, c'est c'est la médication. Et c'est simplement ça. Et c'est parce que ça a mis mon cerveau, vu l'amnésie, qui a duré quand même 6 ans, ça m'a permis de réajuster ce qui clochait dans mon cerveau. Et c'est grâce à la médication que j'ai pu jalonner et avoir de la clairvoyance et réaliser que le nœud était là et pas ailleurs. Mais c'est un long chemin.
Alors c'est un processus, vous avez raison Suzanne, ouais, de dire que c'est un processus et de rappeler qu'il y a des étapes et des fois une des premières étapes pour pouvoir déjà être capable à prendre conscience des choses, c'est déjà d'être moins envahi par ce qu'on appelle les symptômes, les prodromes, les manifestations, un petit peu ça. Et la médication peut être effectivement ce qui va permettre un petit peu de poser, contenir pour pouvoir faire la démarche qui suit. Tristan, je vous en prie, prenez seulement le...
Je dirais aussi qu'une partie fondamentale pour aider quelqu'un qui souffre de traumatisme est la compréhension et aussi l'expression de soi.
Oui.
Notamment l'art est un domaine merveilleux pour ça. Que ce soit d'écrire des histoires, peindre, réaliser un film, ou faire une musique, ça permet en fait de directement... Tolstoï disait que l'art nous permettait de comprendre et de nous comprendre et de transmettre une émotion comme la science transmet une connaissance. Et les émotions traumatiques suivent ce même procédé. Et une fois qu'on se sent compris, on peut véritablement parler de nos traumatismes et arriver à trouver un chemin sur ce qui peut être fait et sur ce qu'on doit malheureusement laisser derrière nous.
Oui, vous avez raison. Mais merci de votre témoignage, Marine.
J'ai une question pour Tristan. Justement, quel est le biais artistique qui vous correspond le mieux justement pour réussir à transcender ces difficultés que vous avez vécues ? Est-ce que vous avez un exemple de création que vous avez vous-même fait ?
Eh bien, je me suis essayé un peu tout, mais beaucoup d'écriture. La musique. La musique m'intéresse, elle m'intéresse énormément. J'ai écrit pas mal de paroles, la poésie. J'apprécie beaucoup Edgar Allan Poe, notamment, qui était le premier à vraiment poser la souffrance sur des pages. En tout cas, je dirais que c'est un peu tout ça.
Ben merci. Diana, vous aviez envie de rebondir, on vous écoute.
Des fois, quand on a des traumas, c'est pas facile d'en parler parce que des fois, nous les jeunes, on s'enferme parce qu'on a peur de se faire juger, que les gens nous trouvent après différents, que personne ne nous comprend. C'est pour ça que des fois, on est enfermé et j'ai juste ça à agir.
Oui, d'ailleurs, on va pouvoir en parler tout à l'heure au fil de notre émission avec un joli thème que vous avez proposé qui s'intitule « L'égalité malgré la maladie ». Restez à l'écoute sur Pavillon Nomade. Il est 15h43, alors on va, avant de passer une petite chanson, on va prendre encore une ou deux questions ou rebondissements. C'était à vous de voir, Marine.
Oui, j'avais envie de vous inviter à aller aux ateliers du quartier socioculturel des autres jours parce que c'est justement des ateliers qui peuvent aussi permettre de développer la résilience à travers l'art. Donc le lundi, il y a un atelier collage, le mardi, il y a la peinture, le mercredi, il y a un atelier d'écriture, le jeudi, c'est la radio et le vendredi, c'est aussi écriture.
Et voilà. comme on fait un petit peu de pub pour les activités, n'oubliez pas que ça peut aussi passer par l'approche psychocorporelle, que ce soit à travers les exercices de fitness le matin ou la balade comme aujourd'hui. On sait que cet après-midi, il y en a qui ont fait le choix d'aller au Nordic Walking. Ça peut passer par des activités sportives. En fait, tout ce qui est, c'est finalement, comme je disais tout à l'heure, dans ce processus de rétablissement, il y a 4 piliers. Le sens à sa vie, c'est qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui va nous permettre de passer à autre chose. Et si c'est que 5-10 minutes, bah c'est déjà 5-10 minutes de gagner. Je vous propose de vous retrouver après cette magnifique musique de Vasco Rossi qui s'intitule « Vita speri colata ».
Di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. Poi ci troveremo come sta a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti da qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai.
En direct sur Pavillon Nomade, Luca, vous nous avez proposé cette chanson et tout au long de la musique qui parlait, j'ai dit mais peut-être tout le monde ne comprend pas ou ne connaît pas l'italien, mais de quoi en quelques mots parle cette musique ?
Vasco Rossi parle de sa vie dangereuse et pleine d'emmerdements. Il y a eu plein de problèmes en Italie, c'est un chanteur très connu, il a fait de la prison notamment pour ses sortes de cocaïne. Voilà, il raconte en fait un peu sa vie, son vécu.
Il raconte son parcours voilà. Le long de sa vie.
Voilà. Pour moi, les deux plus belles chansons, c'est celle-là et puis une autre qui s'appelle Vivere.
Alors, si vous avez envie de découvrir Vasco Rossi, vous allez sur les bonnes plateformes de streaming légales. À vous de choisir et puis de taper Vasco Rossi. Vous allez avoir le répertoire. Et aujourd'hui, les choses sont bien faites. Si vous avez envie de découvrir le texte, aujourd'hui, on peut trouver les traductions des textes. Eliane, bonjour.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Et puis, on va lancer votre mythique rubrique, la ménagerie d'Eliane.
D'accord.
Dans la ménagerie d'Eliane.
Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du Malinois, ou berger belge. Pour les gens qui ne connaissent pas, vous pourrez toujours aller voir sur les réseaux à quoi il ressemble. Donc, éduquer ce chien est un processus exigeant qui demande beaucoup de patience et de rigueur. Sélectionné pour son tempérament, son endurance et son intelligence. Pendant les 3 premiers mois de sa vie, il va apprendre les commandes de base, soit assis, couché, reste et viens. Il est absolument inutile de rappeler son chien en liberté en répétant son nom plusieurs fois. Le chien connaît son nom. Il faut juste donner l'ordre choisi. Très souvent, on entend les gens dire « panneau, panneau, panneau », mais il n'y a pas d'ordre. Donc c'est « panneau, panneau, retour ». Tous les 3 mois, il passe une évaluation avec le maître chien et un juge. Ce sont des tests éliminatoires. Quand on sait qu'un chien d'assistance coûte environ 40 000 francs, la sélection est très stricte. Pour les chiens qui ne seront pas choisis, ils se dirigeront vers une autre discipline. Pendant les 2 premières semaines de vie, le chiot est avec sa mère, ses frères et sœurs. Il apprend à marcher et à se sociabiliser. Jusqu'à 1 mois, il va explorer son environnement. À 6 semaines, il va être séparé de sa mère. Son éducation va pouvoir commencer. En récompense des ordres exécutés, il aura des caresses et des encouragements. Par la suite, sa récompense sera un jouet qui, par contre, ne sera utilisé que dans le dressage du chien. Par contre, il peut utiliser tous les jouets de la maison sans problème. Le chien va être testé par des professionnels pour voir quelle est la discipline qui pourrait lui convenir. Le Malinois, par sa brusquerie, n'est pas un chien pour accompagner des personnes à mobilité réduite. Là, ça sera d'autres races que je développerai lors d'une prochaine chronique. Ce chien, il est de catégorie 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans certains cantons, il doit porter une muselière en public et être tenu en laisse. Donc, catégorie 2, le Mali, dans certains cantons, il faut une autorisation spéciale. Et dans la catégorie 1, on retrouvera le Rottweiler ou l'Amstaff, par exemple. Dans certains cantons, c'est des chiens qui sont complètement interdits ou soumis à une autorisation cantonale de détention. C'est un travail énorme pour l'habituer à tous les bruits du quotidien. Le trafic, les trains, aller dans les magasins, et j'en passe. Il est exclusivement éduqué par son maître chien. Ensemble, ils forment un binôme. On connaît le Malinois pour son travail avec la police, les pompiers, la recherche d'individus, la drogue, l'armée, la garde d'objets et les recherches de personnes. Il va aussi dans les zones de combat à l'étranger où, attaché à son maître chien, il peut tout à fait descendre en parachute. C'est un chien de travail très intelligent et infatigable qui demande de la fermeté et du temps. Contrairement à d'autres races, il ne faut jamais lâcher prise s'il n'obéit pas à un ordre. Dans les refuges, il y en a beaucoup. Pourquoi ? Parce que les propriétaires ne se rendent absolument pas compte du travail à effectuer. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ben, le chien devient impossible à gérer. ce que je retiendrai, c'est l'amour et la complicité entre le maître chien et son chien.
Something about this outrageous man became louder and louder.
Avait bien sûr reconnu cette magnifique chanson de Bonnie M. Rasputin. D'ailleurs, je me permets de faire un petit salut à Dusty qui était ici il y a une année de ça, ici au micro de Pavillon Nomade. Il reprend le tribute à Bonnie M. Ça s'appelle Bonnie M. Légende. Ils sont avec les années 80 à la tournée. Donc si vous avez envie d'aller le découvrir, vous allez vite sur internet et vous pourrez trouver. Et je crois même qu'il sera en 2027 en Suisse. Je vous tiendrai au courant. On arrive à peu près à la moitié de notre émission. On va à parler de notre thème qui s'appelle « À la rencontre de nos sens ». Chaque jour, nos sens sont sollicités sans que nous y prêtions vraiment attention. Et pourtant, ils influencent profondément notre humeur, nos émotions, nos souvenirs et même notre santé mentale. Depuis notre naissance, nous découvrons le monde à travers nos sens, bien avant les mots, bien avant les explications. Ce sont eux qui nous apprennent à être au monde. Pour commencer, revenons aux bases. Connaissez-vous les cinq sens déjà? Parce qu'on parle de cinq sens, hein. Mais qui les connaît? Alors, on va donner la parole à Diana. Qu'est-ce qu'on a comme sens connu? Alors, c'est parti, on vous écoute.
On a le toucher.
Oui, on a le toucher.
On a...
Alors, on peut l'aider, hein, s'il y en a d'autres qui ont
le
micro.
Goût.
On a le goût.
Louis, l'odorat.
L'odorat.
La vue.
Et la vue.
Et la vue.
Et on a les cinq sens. Mais à quoi sert-il vraiment dans notre quotidien? Est-ce que vous savez à quoi servent ces cinq sens?
Diana, on vous écoute. C'est très important de toucher... de sentir pas le goût qu'on mange, qu'on apprécie, qu'on aime un truc qu'on aime, on apprécie la vue pour regarder les paysages.
Oui.
Et bah pour écouter le oui, bah pour écouter les gens, parce que si on n'avait pas le oui, on aurait fait comment pour écouter les gens?
Oui, mais vous avez raison. Hein. On parle de trois grands rôles essentiels. Hein. Assurer notre sécurité et notre survie, découvrir et comprendre l'environnement et procurer du plaisir et favoriser les liens sociaux. Je vous propose maintenant d'aller et d'explorer nos cinq sens. L'idée n'est pas d'être exhaustif, mais de se poser quelques questions simples, presque intimes. Commençons par la vue. Est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous aimez regarder quand vous avez besoin de vous apaiser? Parce que quand on parle de vue, vous avez dit la vue fait nous bien. Qu'est-ce que vous aimez regarder quand vous avez besoin de vous apaiser?
Le paysage, les arbres qui bougent, et le vert, le soleil et les nuages.
Les arbres?
Les arbres et...
Alors, je ne vois pas de quoi vous parlez, mais c'était, c'est pas grave. Alors, je
sais
pas.
Et la mer.
Et la mer. Alors, merci déjà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de, quand on parle de la vue, qu'est-ce que vous aimez regarder quand vous avez besoin de vous apaiser, Suzanne?
Moi, j'ai besoin de regarder, me regarder dans le miroir. Mon visage, qu'est-ce qu'il exprime? De la tristesse, de la joie. Mon visage.
Moi, ok, la vue de votre visage, c'est une bonne chose. Marc, vous aviez envie de partager aussi au niveau de la vue. Qu'est-ce que vous aimez regarder?
Pour redire ce qui a déjà été dit, la nature, les arbres, effectivement, les nuages, le ciel étoilé, quand on a la chance de le voir. Et puis, effectivement, les gens aussi. Et simplement, une expression, qu'elle soit du visage ou corporelle d'une personne, et ben c'est, tout, c'est ce qui nous relie au monde. Enfin, les cinq sens, pas seulement la vue.
Pas seulement la vue. Mais on a parlé de couleurs. Y a-t-il une couleur qui vous fait particulièrement du bien? J'ai entendu, qui c'est qui avait parlé de couleurs, là? Alors, Suzanne?
Le bleu.
Le bleu roi. Vous, ce serait le bleu. Tristan, est-ce qu'il y a une couleur qui vous fait du bien? Quand vous regardez la couleur, vous dites, bah, tiens, ça m'apaise.
Je dirais que ce serait le violet.
Le violet. D'autres exemples, Diana?
Le rouge et le vert. Ça me fait rappeler bah, le drapeau du Portugal.
Ah oui, c'est vrai. Des fois, on a comme ça, on peut raccrocher à des souvenirs d'enfance ou de vie. Lola?
Moi, j'aime beaucoup le bleu marine.
Le bleu marine, ouais. C'est une couleur qui vous apaise.
Apaisé, je ne sais pas, mais j'aime bien.
Mais que vous aimez bien.
Voilà.
Émilie, est-ce qu'il y a une couleur comme ça? On est au niveau du premier sens, la vue. Est-ce qu'il y a une couleur comme ça qui vous apaise?
Moi, c'est le rose.
Le rose. Ah, je dis ça parce qu'il y a des études hein, qui ont été. On savait que dans certaines écoles, il y avait certaines couleurs qu'on devait mettre pour pouvoir apaiser, poser. Et dans les hôpitaux aussi, vous avez vu, il y a certaines couleurs qui sont mises en place contre les murs, qui sont des couleurs pastel, un peu plus. Effectivement, la vue est souvent le sens dominant, mais elle peut aussi être très fatigant, parfois fermer les yeux et déjà une forme de repos. Passons à l'ouïe. Est-ce qu'il y a des sons qui vous rassurent ou vous calment? Alors, on va donner un micro. Alors, levez bien la main, comme ça on peut donner les micros. Luca, alors, on va donner le micro à Luca.
Moi, pour moi, c'est la musique. Bon, j'aime un peu toutes les sortes de musique. J'aime autant le rock, la techno, la musique classique. J'aime pas la musique champêtre, par contre. Mais j'aime en principe presque toutes les musiques.
Et les musiques vous calment? Vous font du bien. Peut-être qu'il y a aussi des musiques qui stimulent,
techno,
qui excitent. Hein. Ouais.
Ouais,
ça vous calme pas.
Moi, je danse comme un fou, ouais. Ça pendant des heures.
Ouais. Marc?
Je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe espagnol, sauf erreur, qui dit « Dieu m'écoute quand je prie. Oui, m'écoute quand je prie, mais il m'aime quand je chante. Ouais. » Donc la musique, c'est la plus belle expression de notre humanité et d'une divinité, si elle existe, à mon avis.
Ouais.
Et quelle qu'elle soit... Et comme mon frère, sauf le champêtre. Désolé, hein, s'il y a des adeptes ici.
Merci. Suzanne?
Vous dites, si la divinité existe...
Oui, c'est dans la musique qui se manifeste, hein, à mon avis.
Et vous, Suzanne, est-ce qu'il y a de la musique qui vous fait du bien, des sons qui vous font du bien ou des sons qui vous mettent à mal?
Oui.
Parce qu'on sait aussi que la musique a un effet sur les émotions. Hein. La question est là, mais quel genre de musique vous font du bien et celle qui vous, vraiment vous irrisse les poils?
Moi, c'est le rap que je ne supporte pas.
Ah, non, non.
Et par contre, j'aime les Beatles, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Tout ça, c'est de mon époque. Leonard Cohen, Cremel White.
Alors, John vous avez beaucoup de sons qui vous font du bien. Voilà. La liste est longue. Diana.
Vous, vous aimez pas le rap, Suzanne, mais moi, j'aime bien le rap. Ça m'apaise. Et j'écoute du rap, du Jul, L2B, Joker. Et j'écoute des musiques latina, comme la bachata, j'aime bien.
Ah, ça magnifique. M'apaise. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des sons qui. Peut-être des sons que. Est-ce que le bruit strident des craies sur le mur ou les ongles sur le tableau, c'est des sons qui. C'est du son, hein, mais qui nous mettent à mal. Est-ce que vous avez des sons comme ça qui vous.
Oui. Des fois, quand je scrolle sur TikTok, des fois, il y a des musiques comme ça et moi, ça me touche.
Ouais.
Beaucoup.
Ben, merci. Émilie.
Comme musique, je suis fan de Saez.
Très joli artiste, hein, magnifique.
Oui, et j'aime beaucoup parce que il a vraiment tous les styles, révolté, triste. Enfin, je l'écoute vraiment dans toutes mes humeurs et ça me fait toujours du bien. Et sinon, ouais, moi, je suis très sensible au son. Vraiment, même quand il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, par exemple, je me sens vite surstimulée aussi. Je ne sais pas si c'était la question.
Oui, mais c'est tout à fait ça. On est en plein dedans. Merci, Émilie. Tristan, prenez seulement le micro.
Eh bien, je dirais que c'est les musiques que j'apprécie sont avant tout les musiques qui me parlent à l'instant même. Et que ce n'est pas une question de rap ou si c'est mon époque. À la limite, oui, si c'est une Madeleine de Proust qui me rappelle une époque. Mais... la musique va tellement loin, elle transmet des émotions qui... on peut trouver des musiques qui sont capables de nous rappeler des situations spécifiques et de se rappeler que nous ne sommes pas seuls.
Oui, vous avez raison.
Et à ces moments-là, on atteint un niveau de connexion avec l'humanité, très clairement, et pas tellement au divin. Qui, pour moi, est inégalable.
Mmh. Merci. D'ailleurs, ça me fait penser, le silence, est-il confortable ou contrairement inconfortable? Parce que quand on parle de son, d'ouïe, bah, y a du son, mais quand il n'y a pas de son, c'est quelque chose qui... Vous diriez quoi, Tristan, vous?
Eh bien, le silence, tout dépend. Le silence permet avant tout d'entendre ses pensées, d'être tranquille et de ne pas avoir de stimuli extérieurs qui seraient désagréables. Mais il existe, à contrario, un niveau de silence où malheureusement, on entend son propre cœur, on entend sa circulation. Il y a des chambres faites pour ça, d'isolation sensorielle, qui, si mal utilisées, sont très, très, très désagréables.
C'est vrai, vous avez raison. L'ouïe nous relie aux autres, mais peut aussi nous envahir. Le silence, lui, peut être soit apaisant, soit angoissant. L'odorat, passons à l'odorat. Est-ce qu'une odeur vous rappelle-t-elle un souvenir important? Alors, ça c'est, sans spoiler le goût, hein, la Madeleine de Proust, mais est-ce que l'odorat vous rappelle-t-elle un souvenir important ou pas? Lola.
Moi, souvent, l'odorat, quand je sens des parfums ou quoi, ça me rappelle des personnes que j'ai pu fréquenter ou des périodes de ma vie où justement j'ai fréquenté ces personnes-là. Et je trouve que c'est un peu le seul sens qui me fait ça, à moi en tout cas. Ou sinon, ouais, si j'entends une musique, mais souvent l'odorat, ça nous rappelle souvent des souvenirs et tout.
Oui, merci. Émilie ?
Moi, je suis très sensible à toutes l'odorat, le son. Enfin, je suis assez... ça me fait tout réagir, en fait. Tout me fait réagir. Et l'odorat, c'est vrai que s'il y a une odeur désagréable, je sens tout très fort, en fait. Voilà.
Merci de votre partage. Marc ?
Juste en mode, comme dans tous les débats, il y a toujours celui qui veut revenir et qui dit « Oui, mais je voulais encore dire que », etc. Par rapport à la musique, moi, je vous suggère de faire un truc sur le rap une fois, parce qu'il y a vraiment une question de génération, là. Moi, je vomissais le rap aussi avant de l'écouter vraiment. Il y a à boire et à manger, il faut reconnaître. Mais un chanteur que nous avons tous beaucoup aimé, Suzanne, je suis sûr que tu le connais, Hubert-Félix Thiéfaine, le français, a dit une chose très juste, c'est qu'aujourd'hui, le rap a repris la fonction de révolte qui était celle du rock il y a 20 ou 30 ans. Donc, il faut écouter les rapports. Ils ont des choses à nous dire. Pas tous, mais ils ont des choses à nous dire.
Si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir retrouver dans nos émissions. D'ailleurs, cette émission, pour ceux qui nous écoutent, sera retransmise sur notre site de pavillonnomade.ch. Vous allez pouvoir retrouver dans les émissions du mois passé, on a accueilli des jeunes de Montaigne qui sont venus rapper en direct. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver l'émission. Marine.
Oui, j'en reviens à l'odorat. Je pense que c'est un sens très important et qu'on a tendance à peut-être négliger dans notre société. Et typiquement dans les hôpitaux psychiatriques ou somatiques, c'est quelque chose où on pourrait faire de grands efforts, je pense. Typiquement, peut-être avoir des diffuseurs d'huile essentielle ou des choses comme ça. Et je pense que de ce côté-là, on aurait, ouais, vraiment, on pourrait s'améliorer.
Oui, vous avez tout à fait raison. On va y travailler. On sait que l'odorat influence nos humeurs. Hein. L'odorat est sans doute le sens le plus directement connecté à la mémoire émotionnelle. Hein. D'ailleurs, ça a été décrit dès le début. Hein. Et primitif aussi. Hein. Passons au goût. Alors, le goût, quel est votre goût préféré quand vous avez besoin de réconfort? Alors, Suzanne, vous avez... Est-ce qu'il y a un goût, quand vous avez besoin de réconfort, est-ce qu'il y a un goût qui vous réconforte ou pas? Je disais tout à l'heure, à l'instar de la Madeleine de Proust, qui rappelait un petit peu cette enfance et peut-être la grand-mère qui faisait dans la cuisine et qui le ramenait dans une émotion. Est-ce que vous, il y a comme ça un goût qui vous fait du bien?
Le goût de la joie.
Le goût de la joie, oui, alors celui-là, le goût de la joie, c'est vrai, mais on ne peut pas tellement... Alors c'est vrai que, étonnamment, le goût, c'est d'abord l'odorat qui nous fait avoir le goût. Hein. Si on coupe l'odorat, on a beau mettre quelque chose de goûtu, on le perçoit moins bien. Mais est-ce que vous avez, malgré tout, un goût qui vous rappelle ou qui vous fait sentir bien, qui vous réconforte?
Eh bien, c'est un bon gâteau confectionné par moi-même.
Ah, et ce serait un gâteau à quoi, le gâteau confectionné? Un gâteau aux pommes. Le fabuleux 4 quarts aux pommes, peut-être. Émilie, est-ce que vous avez comme ça, vous qui êtes sensible aux odeurs, qui peuvent par moments vous mettre dans une bonne attention, ou des fois vous répulser comme ça, oui. Est-ce que le goût, c'est pareil ou c'est différent?
Le goût, c'est vrai que j'ai des trucs qui me réconfortent, genre la vanille ou genre les thés aux fruits rouges, des choses comme ça. Le chocolat aussi, les gâteaux au chocolat, les fondants au chocolat. Voilà.
Mais vous avez raison, ça fait partie. Souvent, on a, comme ça, les gens citent souvent le chocolat comme première sensation qui nous font du bien. Diana. Allez-y.
Moi, j'aime bien... le goût de la cuisine de ma grand-maman quand je vais au Portugal. Elle sait bien cuisiner et je suis contente quand je mange ses repas. Et ça me fait du plaisir de manger.
Eh bien, merci. Passons au toucher. Le toucher qui est le dernier de nos cinq sens, le toucher. Y a-t-il un objet que vous aimez toucher pour vous rassurer ou que vous aimez, ce serait lequel? Alors, Diana, je vois que vous avez bondi sur la question.
Moi, toucher les animaux, ça m'apaise. Au toucher, les fleurs, ça m'apaise. Ou mon doudou, depuis tout petit. Ouais.
Mais vous avez raison, on en rigole. Mais moi, je connais des gens qui ont encore leur vieux doudou. Je fais un petit clin d'œil à ma maman, qui, de haut de ses 82 ans, a toujours son premier doudou, son premier nounours, et qu'elle est là, comme qu'elle garde, qu'elle chérit comme son précieux. Mais... pour les autres, est-ce qu'il y a un objet, quand vous touchez, qui vous fait du bien? Suzanne?
Moi, c'est plutôt l'inverse que j'aimerais. c'est d'être cajolé.
Oui, alors c'était ma question. Alors, vu que vous le dites, on va poser la question ouvertement. Êtes-vous à l'aise avec le toucher ou est-ce parfois compliqué? Donc, Suzanne, vous nous dites, vous, en tout cas, d'être cajolé, touché, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous?
Oui, parce que je ne le suis pas du tout. Je ne suis pas cajolée, pas touchée. Et voilà. Donc,
alors, si j'ai bien compris, ce n'est pas que vous n'aimez pas, c'est que ça vous manque.
Oui, ouais. Ça m'a manqué.
Je peux comprendre, Tristan. Est-ce que vous, quand on parle du toucher, déjà, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise ou ça peut être parfois compliqué ?
Eh bien, je dirais qu'avant tout, c'est la représentation d'une relation. C'est que je peux supporter des légers touchés amicaux ou ce genre de choses. Même je vais montrer mon côté amical avec des tapes ou avec juste le toucher. Mais je reste quand même mal à l'aise parce que c'est pour moi un signe de confiance. Plus quelqu'un est important pour moi, plus je me sens bien en sa présence et j'accepte sa présence sensorielle, que ce soit le toucher, l'odorat, la vue. En tout cas, que je dirais que c'est un acte qui n'est pas anodin.
Vous avez raison. D'ailleurs, le toucher est souvent le premier sens à se développer et le dernier à disparaître. Alors, on ne faut pas être aussi catégorique que ça. Il est profondément lié à la sécurité affective. On vient de faire un joli tour de nos cinq sens. Je me suis toujours posé cette question. Si je devais perdre un sens, lequel serait-il et pourquoi ? Et vous ? Si, Diana, s'il y avait un sens, si vous devriez perdre un sens, ce serait lequel ? Qui serait le plus facile à...
L'odorat, parce que des fois, il y a des trucs, que ça sent mauvais. Voilà.
Ok, pour vous, ce serait l'odorat. Pour les autres, Tristan, pour vous, si vous devriez... on dit à un moment, si j'ai tous ces cinq sens... Alors, sachez qu'il y a plus que cinq sens. On va d'ailleurs parler quand même encore quelques minutes après de ce fameux sixième sens. Hein. Mais on a au-delà d'autres sens. Hein. Mais si, sur ces cinq-là qu'on a déjà évoqués, si vous devriez en perdre un, lequel serait plus facile, selon vous, pour vous ? Ou à l'inverse, plus difficile ?
Honnêtement, ça m'est... Après, c'est une posture que j'ai moi-même. Ça m'est totalement égal. Ce que je perds va de toute façon me faire gagner autre chose. Notamment, les personnes qui sont aveugles arrivent à mieux s'orienter avec l'utilisation de cannes, ou une ouïe qui se développe. Le corps, sans doute que le cerveau se reconnecte d'une manière ou d'une autre pour faire en sorte qu'une perte n'en soit pas une non plus.
Ouais, si on en perd un, ça va développer un autre obligatoirement, oui. Vous avez raison. Hein.
Et il vaut mieux profiter des sens qu'on a actuellement et ne pas se poser la question, quoi.
Ouais. Alors, vous avez parlé du cerveau. C'est vrai qu'on parle souvent de cinq sens, mais le cerveau s'appuie aussi sur d'autres formes de perception. La proprioception, la perception de la perception du corps dans l'espace, l'interoception, le ressenti des signaux internes comme la faim, la soif ou le rythme cardiaque. Ces perceptions sont essentielles pour l'équilibre émotionnel et corporel. Le sixième sens, c'est quoi selon vous ? On entend toujours parler de ce fameux sixième sens, mais qu'est-ce que c'est ? Alors je vois qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent. Émilie, on va vous donner le micro, Émilie. Qu'est-ce que c'est ce fameux sixième sens ?
Moi je pense que c'est un avis, mais quand tu ressens les choses avant qu'elles arrivent par exemple, un instinct. Voilà, quelque chose comme ça. Moi je pense que c'est ça.
Bah, voilà, c'est votre définition, c'est comment vous ressentez pour les autres. Diana ?
Moi aussi, c'est la même chose que Émilie. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Ben, merci. Suzanne ?
Moi, c'est donner ce que l'on n'a pas reçu.
Pour vous, ce serait ça le sixième sens ?
Ouais.
Ok, oui, ça peut être un point de vue. Tristan ?
Eh bien, pour moi, ce serait la gnose. Donc, le principe même de ce qui est à l'extérieur du monde des sens. Il y a des recherches médicales qui prouvent que nous percevons le monde avec nos sens. Nous percevons le monde avec nos sens et que il y a tout de même une forme de réalité externe à ces derniers. On vit constamment avec quelque chose qui nous montre qui nous montre à quoi est censé ressembler le monde. Mais pour des exemples très simples, on ne peut pas voir directement les UV dans la nature, ni les infrarouges, alors que des animaux, eux, le peuvent.
Mais vous avez raison, ils le peuvent. Alors, est-ce qu'on ne peut pas, ou est-ce qu'on a perdu les facultés, les capacités à pouvoir le faire, hein? Parce que quand on parle de sixième sens, dans le langage courant, le sixième sens désigne souvent l'intuition, comme vous avez dit, Émilie. La science parle plutôt de codage prédictif. Le cerveau analyse des milliers d'informations inconscientes et nous transmet une conclusion rapide sous forme d'instinct. Bon, voilà un petit peu ce qu'on peut trouver d'un point de vue, on pourrait dire, un peu scientifique. Mais je me suis toujours posé la question. On est dans une société où le monde commence avec les écrits. Et puis finalement, avant les écrits, on avait d'autres capacités d'échanger, de communiquer. Et puis, quand on parle un peu de physique quantique, hein, finalement, c'est comment le cerveau il va analyser l'environnement en termes de probabilité, de dire, bah voilà, il est plus ou moins probable que cet objet qui est posé là, il ne soit pas là, mais là. Mais d'une certaine manière, il analyse, et est-ce que finalement tout ce qui est de pollution qu'on a eu visuelle, sensorielle, font qu'on a peut-être perdu d'autres capacités qui nous permettaient de communiquer. Donc voilà, moi je pense qu'on doit avoir un peu plus que ces cinq sens ou ces six sens. D'ailleurs, je pense que peut-être Marine pourrait nous en dire un peu plus ou échanger sur le thème.
J'avoue que c'est pas un sujet que je connais très bien, enfin le sixième sens en soi, mais ce que disait Tristan et aussi ce que vous venez de dire, Jimmy, me fait penser aussi à cette hypothèse un peu où on sort de la vision matérialiste de la science et on va aussi plus vers ces hypothèses en lien avec des expériences de mort imminente, par exemple, où certains scientifiques maintenant parlent d'une éventuelle conscience qui serait extra-neuronale, donc pas en lien avec le cerveau, que certains appellent Dieu, mais peu importe, ou une information qu'elle a. Et peut-être que le sixième sens, avec ce que vous dites, on pourrait se dire, ben, c'est rejoindre, en fait, réussir à avoir accès à cette conscience qui est universelle, cette information, et de, du coup, avoir accès à ce qu'on appelle l'intuition ou à d'autres perceptions, c'est un sujet où je peine à trouver mes mots, mais en tout cas, ça me fait penser à ça, ce que vous venez de soulever.
Oui, merci. Marc ?
Ouais, moi je suis alors affreusement matérialiste par rapport à tout ça. C'est vrai que certains animaux voient les UV et que certains entendent les ultrasons, le malinois dont on a parlé tout à l'heure, mais ils l'entendent avec leurs oreilles. Les UV, ils les voient avec leurs yeux. La physique quantique, on la met un peu à toutes les sauces, mais la physique quantique, c'est rien d'autre que le comportement de la matière à des échelles en dessous de l'atome.
Clairement.
Donc ça n'a absolument rien à voir. Les gens qui viennent parler de conscience quantique, mémoire de l'eau, j'ai beaucoup de peine à croire à tout ça. Je pense que tout ce qui fait qu'on a des perceptions dites extrasensorielles, ça se passe dans notre cerveau et ça fonctionne avec des outils qu'on ne connaît pas encore, mais il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Beaucoup de scientifiques disent que le cerveau, comme l'espace, c'est la dernière frontière en science. C'est incroyable parce qu'on sait encore peu de choses.
On connaît apparemment, on disait 30% du cerveau. Mais ça pourra être le thème d'un prochain débat. Le temps avance. Nous ne sommes pas seulement des outils biologiques, hein, on l'a bien dit. Les cinq sens ne sont pas juste des outils biologiques, ils sont des portes d'entrée vers nos émotions, nos souvenirs et notre sécurité. Prendre le temps de les écouter, même quelques minutes par jour, c'est déjà une manière simple de prendre soin de soi. Merci en tout cas d'avoir déjà pu échanger. On va directement passer, parce que le temps file, hein, et il est déjà 16h23, on va directement passer à notre dernier thème proposé par Lola. Diana, excusez-moi, je voyais Lola qui me faisait des grands signes pour me dire non, c'est pas moi. Diana, vous avez eu envie d'aborder le thème l'égalité malgré la maladie. On vous écoute.
Je m'appelle Diana, j'ai 18 ans et moi je veux aborder la discrimination parce que moi je suis contre la discrimination. C'est pas parce que t'as un handicap, que t'es malade, que t'es différent, qu'on peut te juger, qu'on peut se moquer de toi, qu'on peut te mettre à l'écart. Malgré l'handicap et la maladie qu'on a, on est tous égaux.
Oui, bah merci. Ça fait plaisir d'avoir ce cri de cette jeunesse ici qui se bat contre, on pourrait dire, la stigmatisation, hein, finalement, et les idées préconçues. On a tous connu ces contours. L'hôpital, c'est le Maboul Palace ou le troisième contour. Finalement, non. On parlait de tout à l'heure de résilience. On parlait tout à l'heure, finalement, on est tous des êtres humains. Et vous avez raison, hein, d'aborder ce thème-là.
C'est pas parce que t'as une maladie que... t'as un handicap que tu peux pas faire un métier ou tu peux pas réaliser ton rêve et tu peux pas avoir d'amis, tu peux pas vivre une vie normale, on est tous égaux comme j'ai dit avant. Et moi, j'ai toujours aidé les gens en situation de handicap parce que moi, je voyais que ça jugeait trop sur une personne et cette personne est venue mon ami, parce qu'en fait, à la récré, personne ne traînait avec cette personne parce qu'il disait, ouais, il est handicapé et tout. Et ça venait vers moi, ouais, pourquoi t'es pote avec, il est handicapé. Moi, j'ai dit, c'est parce qu'il a un handicap que je peux pas être amie, traîner avec lui.
Et est-ce que le fait d'avoir été, d'une certaine manière, un modèle pour vos amis, vos proches, est-ce que ça leur a permis peut-être de changer leur fusil d'épaule, de dire, finalement, Diana, elle a peut-être raison, il y a peut-être cette personne-là, elle a de la valeur, elle a des choses à apprendre, à échanger. Est-ce que ça a permis de changer le regard de certains de vos camarades?
Oui, il y a des certains qu'après, ils étaient dire pardon, j'ai expliqué... la personne, elle n'était pas bien, qu'elle voulait avoir des amis. Et après, y a trois personnes qui sont venues vers la personne et ils étaient amis avec la personne. J'ai dit, elle a un cœur comme nous, elle a un cerveau comme nous, c'est parce qu'elle a un handicap que vous pouvez la juger ou vous ne pouvez pas être amis avec cette personne.
Merci en tout cas, Suzanne.
Eh bien, bravo parce que... Oui, c'est une autre génération, vous êtes d'une autre génération, mais le problème est partout, dans toutes les générations. Et moi, j'ai souffert justement des proches qu'ils ont gardé sur l'épaule le fusil. Ils n'ont pas changé le fusil d'épaule, bien que j'ai tout fait pour les faire changer. Mais ils n'ont pas changé les jugements, mais t'es malade.
Finalement, l'important, est-ce que c'est de voir l'autre changer s'il ne veut pas changer? Mais l'important, c'est de pouvoir s'exprimer et de montrer à l'autre qu'on est encore capable, on a encore de la valeur, et peu importe comment l'autre prendra ou voudra changer ou pas. Diana.
Je vais parler aussi, y a aussi la maladie, l'handicap, il y a aussi les personnes âgées. On est dans une génération qu'ils aiment bien juger les gens. C'est pas parce que t'es une personne âgée que tu peux pas, tu vas pas la juger. Je veux dire, voilà. Et
alors, j'ai pas bien saisi. Là, vous dites que il y a des gens qui jugeraient les personnes âgées ou c'est les personnes âgées qui sont jugeantes envers les plus jeunes parce qu'on sait tous.
Des fois, c'est les deux. Des fois, il y a les jeunes et des fois, c'est les personnes âgées. Après, je comprends.
En fait, c'est des chocs générationnels. Hein.
Oui.
Moi, il y a des choses que je me disais toujours plus jeune, jamais je ne dirais ça à mes enfants. Et puis finalement, quand j'avais 12, 14, 15 ans, aujourd'hui j'en ai 47, je suis papa, et je me retrouve à dire des phrases que je ne pensais jamais dire. Et que, voilà, ça fait partie aussi du process.
Moi, j'aime pas faire aux autres.
Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas que l'on te fasse.
Oui, c'est un très joli dicton. Mes parents, ils seront âgés. J'ai des grands-parents âgés et j'aurai des enfants et je ne sais pas s'ils vont être malades ou ils vont naître avec un handicap.
Merci. Émilie ?
Je trouve que c'est très bien que tu aies parlé de ça parce que ça se passe beaucoup. Et oui, sur les réseaux, partout. Ouais. Même moi, ça m'est arrivé aussi. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'étais souvent mise à l'écart et tout. Du coup, ça me touche que tu as pris ce sujet aussi. Je trouve que c'est bien et tu as une très bonne vision des choses. Vraiment, c'est super.
Merci de votre soutien. Diana.
Et après, il y a aussi y a beaucoup de gens qui jugent aussi des fois sur le vent.
L'apparence.
Physique,
oui.
Et comme tu t'habilles.
Oui.
Voilà.
Oui.
On est dans une génération. Des fois, tu dis, t'es habillé comme ça.
Mais
dès que t'es un peu
vous
différente.
Dites, on est dans une génération. Vous êtes cette génération.
Oui.
Quand on dit la société, c'est nous.
Oui.
Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que les jeunes d'aujourd'hui ont ce type de regard ou de comportement?
Moi, je trouve que Et bah, sûrement, bah, ils n'étaient pas trop éduqués et ils croient que t'as un robe top, t'es une.
Oui, on va dire une fille de joie, allez, faut pas être trop vulgaire.
Voilà, c'est parce que t'as pas un robe top que t'es pas une fille bien. Voilà. Ouais. C'est parce que t'as une autre apparence que t'es pas une fille normale ou. Voilà.
Ou parce que t'as un comportement différent.
C'est pas parce que t'as un comportement différent que. N'est pas normal.
Ouais, vous avez raison. Lola.
Moi, je pense que les jeunes, ils jugent beaucoup aussi parce qu'ils ont peur d'être jugés. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux. Ils voient que tout le monde juge, donc ils font la même chose parce qu'au fond, ils ont peur d'être jugés aussi. Et je pense que c'est aussi beaucoup ce qu'ils voient sur les réseaux. Enfin, ils sont jeunes quand même pour être dessus. Et puis, je trouve qu'ils se montrent beaucoup la tête. Ah, si une fille porte ça, elle est comme ça. Si un gars porte ça, il est comme ça. Et je trouve que c'est aussi beaucoup pour ça qu'il y a le jugement hyper facile maintenant. C'est... Ils se mettent ça dans la tête, alors qu'au fond, je pense qu'ils ne savent même pas pourquoi. C'est juste une manière de faire qu'ils ont normalisé, quoi.
Ouais, vous citez deux éléments. C'est la peur. Donc, du coup, j'ai peur. Donc, je fais et je reproduis les mêmes choses. Et puis, le phénomène aussi de groupe, hein, d'appartenance. Alors, on voit que quelqu'un dit ça dans la classe. Et si on va s'opposer à ça, ben, on va être le paria de l'école. Et puis, finalement, inconsciemment, on suit des phénomènes de groupe qui font que on se retrouve à critiquer quelqu'un sur les réseaux et puis qu'à faire, on se dit mais putain, mais pourquoi j'ai fait ça alors que si j'avais pas envie. Tristan.
Eh bien, pour moi, on parle beaucoup de génération alors que le fait de se stigmatiser et de ne pas être d'accord pour ne serait-ce que ne pas avoir les bons vêtements, pour ne pas avoir le bon style, pas venir du bon endroit, c'est quelque chose qui fait partie de l'humain, malheureusement. Et je pense que c'est très bien l'insensibilisation, mais qu'il faut persuader les personnes. Persuader ne fonctionne pas. Quand quelqu'un a un avis, généralement, c'est par lui-même qu'il change d'avis. Et très souvent, des personnes qui ont le jugement facile, je ne sais pas, par exemple, pour un style de musique, ils vont aller dans un concert, des paroles vont les toucher, ils vont changer d'eux-mêmes. Et malheureusement, quand on essaye de leur faire changer d'avis en disant « Ah non, mais vous n'êtes pas du bon côté », là, ça donne un effet contraire. Où ça donne une envie de se rebeller et de se dire « Ah, on veut changer mes idées. » Mais c'est un problème qui est très, très complexe.
Et vous avez raison de rappeler, Tristan, un complexe qui, finalement, est humain. Et je pense que nos grands-parents, arrière-grands-parents, avaient déjà, à d'autres niveaux, mais vivaient déjà cette même problématique, finalement, du jugement, du non-respect, de la non-reconnaissance. Oui. Et qu'aujourd'hui, peut-être que les réseaux sociaux ont enflammé aussi. Hein. Avant, on était dans la cour de récré. Aujourd'hui, on véhicule ça de manière exponentielle. Et peut-être que c'est une des pistes, en termes de vouloir changer, c'est déjà d'avoir des lieux comme ici, où on peut s'exprimer, où on peut gentiment arriver à donner aussi finalement, de s'assumer, de dire bah voilà, moi je suis à l'hôpital, je suis hospitalisé, et puis d'entendre que bah, finalement c'est pas parce qu'on a un trouble psychique, c'est pas parce qu'on a une maladie, qu'on a plus de valeur, qu'on n'arrive pas à prendre position. Et ça, peut-être, c'est ce qui permettra de changer, peut-être de mettre une pierre à l'édifice au changement. Donc Pavillon Nomade, tous les jeudis de 15h30 à 16h30. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Hein, on a le début à 15h. On arrive gentiment à la fin de notre émission. On espère que vous avez tous passé un bon moment. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à nos invités du jour. À jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade. On se quitte avec une chanson d'amour, une chanson magnifique qui nous réunit tous. C'est Let It Be des Beatles.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.